pour parler du concours à réciter. Je voulais vous présenter les différents intervenants que vous êtes certains d'ailleurs parmi nous. Hein. Gérard Descamps, qui est le président de l'Institut national des métiers d'art, qui est graveur, maître d'art, meilleur ouvrier de France et beaucoup d'autres choses, Gérard. Pascal Martin, qui est professeur à la fois à l'école Boulle et à l'école nationale d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, ai-je bien dit ? Alain Deray, qui est directeur de l'école d'architecture de Montpellier, mais qui était, au moment du concours, directeur de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Il y a Jacqueline Fèvre, directrice de l'école d'art et de design, Jacqueline d'Orléans, qui était la présidente du jury du concours à réciter. Il y a Diana Brennan, qui était aussi une des enseignantes référents de ce concours expérimental. Et puis Sarah et Cédric, et puis toute l'équipe, hein, mais ils se présenteront eux-mêmes tout à l'heure, qui ont participé à ce concours, hein, qui, je vous le rappelle, a regroupé les écoles d'arts appliqués, l'école Boulle, l'école du Perret, où est encore Sarah, l'école Estienne, et puis l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, plus bien sûr l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Donc c'était un quintuor original et efficace finalement. Un quintet, merci Alain. Un quintet. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter ce qu'a été cette expérimentation, le bénéfice qu'en ont tiré les étudiants et je pense aussi les enseignants, les directeurs, l'Institut national des métiers d'art. Ce bénéfice, on l'a partagé aussi avec, bien sûr, les directeurs des cinq écoles, mais au-delà avec l'inspection de l'éducation nationale et avec l'objectif de développer ce type de projet interdisciplinaire, voire de l'intégrer dans les cursus même des établissements. Mais je vais laisser maintenant la parole à Gérard Descamps, qui, avec Alain Deray, était les premiers protagonistes de ce projet.
Jacqueline, je mets toi là, ouais. Mais tu seras bien là. Ouais. Bon, bah, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on est vraiment entre nous là, mais on va dire que c'est un public d'élite. Alors, avant de vraiment parler d'art réciter, je pense que ce sera surtout Pascal et Alain qui en parleront. Moi, il me paraissait nécessaire de le resituer dans le contexte des formations au métier d'art. Parce que c'est vraiment la première fois qu'il y a une expérience comme ça de transversalité où sont intégrées les formations métiers d'art. C'est assez courant depuis quelques années de voir ça plutôt dans les écoles d'art, de design, mais pas métiers d'art. Donc, comme vous le savez, l'INMA a en charge, on va dire, de penser l'avenir du secteur des métiers d'art. Donc, très tôt, dès sa création en 2011, on a décidé de créer une commission formation, puisque ça faisait très longtemps qu'il y avait des problèmes sous-jacents dans les formations. Il y a eu énormément de rencontres, il y a eu une grande manifestation au Sénat, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus, où tout le monde était venu parler de ces formations, mais sans vraiment communiquer, partager. Il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu, en effet, une édition de ces actes, des actes, tout du moins, mais sans jamais de proposition concrète. Bon, donc l'INMA a réussi à mettre autour de la table tous les protagonistes, enfin les dispenseurs de formation, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire l'éducation nationale, le ministère de la Culture, l'enseignement supérieur, les chambres de métiers, donc qui couvrent tout ce que l'apprentissage, les CFA. et afin de dresser un peu, de faire un diagnostic et puis essayer de faire des préconisations vraiment pour améliorer ces formations métiers d'art. Donc, pour vraiment vous faire plaisir, c'est là que ça se passe. Voilà. Voilà de quoi on est parti. Alors, partez pas tout de suite. Déjà pas si nombreux que ça. Mais c'est pour vous dire qu'il était temps d'essayer de comprendre quelque chose. Donc là, vous avez une espèce, comme dit Pascal Leclerc, de jeu de loi des formations métiers d'art et annexes. Donc vous avez des formations sur la gauche plutôt. Donc l'université, ensuite les écoles spécialisées, écoles d'art. Les lycées, écoles supérieures d'art appliqué, et puis tout ce que dispensent les chambres de métiers. Et on arrivait à des situations, dont le premier diagnostic, comment des jeunes, comment des familles qui veulent s'orienter dans ces métiers-là s'y retrouvent avec un schéma tel qu'on le voit là. Par exemple, en niveau 4, donc c'est-à-dire l'équivalent du bac, on se retrouve avec des bacs pro, on se retrouve avec des bacs à appliquer, des brevets des métiers d'art. Et puis je crois que les chambres de métiers avaient aussi des PTM, donc brevet technique des métiers d'art, deuxième année. Donc une abondance de diplômes équivalents, en réalité, pour faire la même chose. Donc ça, c'était un premier diagnostic. Bon, je vous le laisse encore un petit peu pour que vous puissiez l'assimiler. Après, on passera à une autre image. Donc la difficulté était qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de filière métiers d'art. On démarrait, bien des formations démarraient au niveau du CAP, et puis s'arrêtaient en Bac plus 2, c'est-à-dire en DMA, avec un seuil quasiment infranchissable pour beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un CAP et ensuite un BMA, par exemple, il est très difficile d'accéder en post-bac. Nous, c'est ce qu'on a remarqué. On voit bien à l'heure actuelle que les écoles supérieures d'art appliqué recrutent peu, alors je ne veux pas généraliser, mais recrutent peu de jeunes issus des CAP et des BMA. Ils recrutent plutôt des gens déjà passés par un bac général pour faire une mise à niveau. Et ou alors, carrément, pour certains, des gens déjà munis de licences, voire parfois de master, pour vous dire où on en est. Donc, l'idée était quand même d'essayer d'harmoniser tout ça. Les écoles d'art, ben, on le sait très bien, ce sont un petit peu déjà... En pré-bac, il n'y a absolument aucune formation. Et en post-bac, on s'est aperçu que les ateliers, quand même, étaient de moins en moins nombreux dans les écoles d'art. L'école de Beaux-Arts, c'est vrai qu'à part certaines, encore en région, ou même des écoles je pense à l'école des arts déco de Strasbourg, qui maintient encore pas mal de formations autour du savoir-faire, du métier, depuis quelques années, quand même, les écoles d'art ont un peu abandonné ces formations pratiques métiers d'art. En plus, il y avait très peu de passerelles. C'est-à-dire qu'il y avait une grande difficulté. Alors, pas tellement de passerelles pour aller de pré-bac en post-bac, et puis pas beaucoup de passerelles, voire aucune. Quand je dis passerelles, c'est des équivalences et des reconnaissances de diplômes. Entre, par exemple, un DMA, si vous avez un DMA 2, rentrer en école de Beaux-Arts sur une troisième année, c'était quasiment impossible. Moi, j'ai eu des étudiants qui, après un parcours de 5 ans en art appliqué, ont été admis en première année aux Beaux-Arts. Pourquoi ? Parce que les Beaux-Arts ne reconnaissaient pas du tout le bac art appliqué, c'est-à-dire que les 3 ans faits, seconde, première, terminale, n'étaient pas tenus en compte, et en plus, elle ne valide que l'année, non pas l'année N-1, voilà, diplôme moins 1. Donc ce pauvre jeune homme qui était très brillant, qui a eu son DMA avec les félicitations, excellence, enfin tout ce qu'on peut imaginer, s'est retrouvé en première année. Et dans la même promotion, comme quoi après c'est une histoire d'homme, de chef d'établissement, dans la même promotion, il y a une étudiante donc, qui a eu son DMA et qui a pu rentrer aux Beaux-Arts de Besançon, en DNSEP. Donc vous voyez, le différentiel, il est quasiment de 4 ans. C'est-à-dire que le directeur des Beaux-Arts de Besançon a reconnu, après dossier, après entretien, que finalement, ce DMA valait un bac plus 3, parce qu'ils ont tenu compte de l'année de mise à niveau. Donc, vous voyez, il y avait énormément de choses à faire. Donc, nous, on a fait ce diagnostic avec toutes ces difficultés, et on s'est dit que le mieux était vraiment de proposer, de faire une préconisation de filière vraiment métier d'art, qui irait du CAP jusqu'au bac plus 5, donc équivalent grade de master, tout simplement aussi pour rentrer dans le circuit des LMD. Je veux dire, on est quand même pas mal décalé. Moi, j'ai vu pendant des années accueillir dans l'atelier des jeunes qui venaient d'Europe, et nous, impossible d'envoyer nos étudiants dans des écoles qui elles, étaient déjà dans les LMD, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc là, il y avait un décalage qui était, à mon avis, inadmissible. Donc, inscrire un vrai parcours métier d'art, et en même temps, grâce à un bac plus 5, accéder à un domaine qui aujourd'hui est vraiment précieux dans les métiers d'art, c'est le domaine de la recherche. Je pense notamment au textile, au verre, à la terre. Si vous voulez faire de la recherche appliquée, il faut aller au Royaume-Uni, il faut aller dans les pays scandinaves. Chez nous, c'est très compliqué, il n'y en a quasiment pas. Donc, avec l'accord de tous, encore une fois, la préconisation, c'était culture, éducation nationale, tout le monde, enseignement supérieur, tout le monde a validé ce projet de filière, donc qui démarrait, on requalifiait le CAP plutôt pour avoir de la cohérence en certificat des métiers d'art, donc on aurait été sur un certificat des métiers d'art, un brevet des métiers d'art, un diplôme des métiers d'art qui, lui, du coup, passait en bac plus 3, donc équivalent au grade de licence, et ensuite deux années supplémentaires, un diplôme national supérieur de métiers d'art qui, lui, avait l'équivalent d'un DNSEP, donc grade de master, et qui ouvrait les portes, éventuellement, pour ceux qui le voulaient, à la recherche, et qui permettait, en effet, à des étudiants d'école d'art qui avait eu un DNAP ou un DNAT, d'intégrer ensuite, s'il le voulait, des formations supérieures en métier d'art. Donc là, on arrivait vraiment à un mix, à une transversalité nécessaire. Parce que on s'est quand même aperçu que toutes ces formations métier d'art étaient quand même très verticales. Et qu'il y avait quand même pas mal de connaissances manquantes, qui après se rattrape en allant passer 2 ans dans une école d'art, notamment au niveau créatif, et ensuite, à travers des accueils en pépinière ou autre, travailler tous les manques au niveau de la gestion, au niveau du marketing, au niveau de la communication. Il y avait vraiment des manques pour nos jeunes en métier d'art. Donc, une fois ces préconisations faites, on s'est dit, en attendant, on sait très bien, on connaît bien l'inertie des différents ministères, donc il fallait absolument embrayer. Par exemple, je pense au DSA, les DSA ont été à un moment expérimentaux. Et puis, à force de faire ses preuves, tout doucement, c'est remonté sur les CPC, et puis on les a développés. Donc on s'est dit, on va tenter déjà de faire des expérimentations diverses et variées. Et une des premières expérimentations qui est venue à l'esprit, pourquoi justement pour quitter cet esprit vertical de formation, et s'il y a un mot clé, un mot fort qui est sorti dans le diagnostic négatif, on peut dire, des formations actuelles, c'est le manque de transversalité, le manque d'horizontalité. Et donc, avec mon ami Alain Deray, on s'est dit, faisons quelque chose de façon à ce que les étudiants se confrontent aux autres, à l'esprit des autres. Et c'est comme ça qu'est né à Réciter, je crois qu'on l'a présenté lors des journées d'études internationales qui ont eu lieu à l'INHA, toujours en partenariat avec les Arts Déco. Et donc, à Réciter est un bébé de la commission formation. C'est une expérience Bon, j'espère qu'elle sera renouvelée, bien sûr, ou régionalisée. Enfin, c'est une expérience qui a fait que les métiers d'art sont sortis un peu d'un isolement. Et bon, on aura des témoignages de jeunes. Ils nous diront, en effet, tout ce que a pu leur apporter ces deux fois une semaine, et puis ensuite un travail, bien sûr, chez eux. Pardon ? Collectif, bien sûr. Voilà, donc on pourrait en témoigner tout à l'heure. Voilà, donc c'était un peu peut-être rébarbatif, et c'est vrai que ces images-là ne sont pas très rigolotes, on peut en passer d'autres. Voilà. Je sais pas. Et puis après on va passer à réciter. Donc je ne sais pas, Alain, Pascal, tu veux qui peut-être... Oui, Alain qui est à l'origine de ce projet, il m'a embarqué dedans, puis il a eu raison.
Oui, je sais pas. Oui, sûrement. Oui. Bonsoir. Alors, c'est vrai que ça fait un peu, comment dire, débriefing ou séminaire interne avec les étudiants. Mais en tout cas, pour les quelques personnes qui ont fait l'effort de venir nous rejoindre, merci beaucoup. Et puis, peut-être parce que vous l'avez pas dit, donc j'en profite comme ça, non pas pour vous rappeler à l'ordre, mais de remercier aussi évidemment les arts décoratifs. Et particulièrement, évidemment, son directeur, qui était membre du jury. Donc c'est important de le dire. Mais après tout, on est tous là pour se rappeler un peu les petits manquements. Et c'est vrai que c'était bien que Jacqueline, tu acceptes d'être présidente donc, du jury en tant que directrice d'une école d'art et de design. D'autant que c'est vrai que ce regroupement un petit peu des écoles s'est fait vraiment un peu comme ça. Il nous a manqué... je ne sais pas si elle nous a manqué, si elle vous a manqué à vous en tant qu'étudiant, que je salue bien sûr, évidemment. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. C'est vrai que le principe d'avoir une école d'art en plus des arts appliqués, pour nous, c'était aussi important. Et je sais que Jacqueline a trouvé l'expérience très intéressante, donc elle a tout à fait envie. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait entendre évidemment, mais c'était important qu'il y ait une école d'art, justement, vous l'avez dit, hein, que ce soit Pascal et que ce soit toi Gérard, parce que c'est vrai que de temps en temps, les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'art appliqués, les écoles d'art se renvoient un petit peu dos à dos. Et finalement, tout cela contribue à une certaine opacité, alors qu'il faut bien l'avouer, les étudiants s'en contrefichent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas leur problème. Ils peuvent juste, eux, à un moment, s'interroger sur la mise en présence, je sais pas, d'un relieur. Je prends non pas le pire, hein, mais ce qui paraît le plus étrange. Non, parce que je veux dire, si on dit un ingénieur, un ébéniste et puis un architecte, on voit tout de suite la structure qui peut à peu près se construire et qui va tenir. Mais si on dit un relieur ou quelqu'un qui va travailler sur les tissus, etc., là, encore les tissus, céramique, on voit, mais le relieur, on a vraiment du mal à voir. Je dis ça parce que je ne le voyais pas, évidemment. Mais ça, c'était vraiment ça l'idée. C'était de se dire, bah, alors on ne va pas prendre le plus incongru, c'est pas du tout ça, mais on va prendre des écoles qui, a priori, du fait plus de leurs directeurs ou du fait parfois plus de leurs enseignants, alors de leurs enseignants, des enseignants, hein, pas les enseignants, la preuve, puisque dans l'équipe qui a encadré le projet, évidemment, la présence des enseignants était aussi indispensable que la présence des étudiants, ça va de soi. Mais il fallait que ce soit un encadrement et au contraire qu'il y ait cette espèce de souplesse, de légèreté que les étudiants finalement travaillent autant à l'extérieur que dans les écoles et s'organisent eux-mêmes, où il y a le sentiment que ce soit désorganisé au début, mais finalement parviennent à produire quelque chose qui soit non seulement montrable, mais surtout qui réponde à ce qu'on avait dit au départ. Un peu, Gérard le disait, sous une forme de boutade à travers tout ce qu'il y a de très sérieux, mon cher Pascal. Et puis, c'est vrai que Gérard est devenu président, entre-temps, de l'Institut national des métiers d'art. Donc, on est obligé d'être peut-être un petit peu plus sérieux. Mais c'est vrai qu'au départ, quand l'Institut national des métiers d'art nous avait proposé de participer donc à ce colloque, donc des journées, en fait, ils ont eu le tort, c'est un peu de leur faute, ils nous ont donné une demi-heure. Donc, en fait, une demi-heure, pour des gens comme nous, c'est un quart d'heure chacun, quoi. Enfin, une demi-heure, c'est rien, quoi. Donc on s'est dit, eh bien, puisque c'est comme ça, à travers la demi-heure qu'on va avoir, on va faire quelque chose sur 6 mois. Et c'est un peu comme ça que c'est né. On s'est dit, voilà, de la demi-heure naîtra un semestre, enfin, le travail sur un semestre. Comme quoi, le temps, d'une certaine manière, importe peu ou importe beaucoup, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc l'idée, c'était vraiment de faire rencontrer des étudiants qui ne se connaissent pas ou qui, a priori, ne se connaissent pas, et vont être capables, alors que nous, en tout cas, en tant que directeur, au départ, j'entends, hein, on ne savait pas trop ce qu'on voulait. On savait qu'il y avait là la possibilité d'être exemplaire, mais en fait, la définition d'un cahier des charges, c'est venu un peu... Hein, c'est pas le cahier des charges qui a été le plus facile ou le plus difficile à faire. Enfin, je veux dire, c'était pas une priorité. La priorité, c'était de se dire, des écoles se rencontrent, des équipes se constituent le mieux possible, travaillent ensemble, avec un encadrement, encore une fois, des enseignants, mais surtout, on trouve quelque chose qui, le cas échéant, puisse permettre de pérenniser le projet, donc cette rencontre, cette interdisciplinarité, et puis aussi de faire en sorte, aussi qu'on puisse... qu'on puisse poser le projet quelque part. Parce que ça, c'était un peu l'idée. C'était évidemment d'aller sur du prototypage, mais surtout de se dire qu'il y avait quand même que le prototypage devait avoir cette possibilité d'être posé quelque part, puisqu'on était aussi parti du constat. Mais là, d'ailleurs, avec les étudiants, alors moi, je parle évidemment plus particulièrement des étudiants de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, simplement parce que l'école est implantée sur un campus, et que ce campus, comme malheureusement beaucoup, est d'une tristesse infinie, et qu'on trouvait quand même assez curieux, finalement, qu'on n'arrive pas à faire démarrer une dynamique sur ce campus qu'on traverse matin et soir, et qui reste, même sous le soleil, un peu, je ne veux pas dire lugubre, il ne faut pas exagérer, mais un peu déplaisant, alors que la nature environnante est... plutôt agréable. Marne-la-Vallée, c'est pas... Enfin, Marne-la-Vallée, en tout cas, Champs-sur-Marne, même si... le lieu paraît extrêmement lointain. David Caméo nous rappelait qu'il l'était et qu'on était obligé de prendre le RER. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur votre directeur qui est un homme admirable, croyez-le bien. On en est tous persuadés, mais c'est vrai que c'est un peu loin, quoi. Mais en même temps, bon, le problème n'est pas là. C'est peut-être bien de passer quelques photos, oui, Gérard. Donc l'idée, c'était vraiment ça, de dire. Et c'est vrai que il y a une autre composante qui était intéressante, au-delà des écoles, des étudiants, des enseignants, et donc de l'équipe qui a travaillé un peu sur la logistique. Oui, voilà. Donc ça, c'est une carte du campus. Voilà. Et donc, c'était d'avoir un petit peu l'écoute de l'université. Et c'est vrai que d'ailleurs la directrice de cabinet du président de l'université était membre du jury, ce qui était très bien, parce qu'au début elle comprenait pas pourquoi on lui demandait d'être membre du jury, mais en fait c'était un peu à la fois ce regard extérieur sans avoir une compétence particulière, et puis quelqu'un qui surtout par définition connaît bien le campus et donc peut être capable de comprendre l'intérêt à supposer évidemment qu'on arrivait à transformer cet essai et que des projets... Évidemment, d'essayer un prototypage qui, après, pouvait comme ça essaimer sur le campus. On pouvait amorcer, dans le cadre d'une étude en plus qui avait été confiée aux étudiants, mais qui sont des jeunes architectes, donc les étudiants de notre DSA, qui est un diplôme de spécialité en architecture et urbanisme. Et donc, le président de l'université avait confié à nos étudiants une étude sur la dynamisation du campus, et dans laquelle il y avait un volet qui finalement a pris la forme d'un récité. Donc c'était un projet beaucoup plus vaste, et on s'est dit, bah, le projet est vaste, il est pour partie financé par EPAMARN, donc qui est un établissement public d'aménagement, qui est partenaire de l'école, et on s'était dit, bah, voilà, il y a une accroche là qui pourra permettre, le cas échéant, de réaliser si c'est effectivement... réalisable, si le travail qui a été fait en commun finalement est suffisamment non pas intéressant, parce que tous les projets l'ont été, et je pense que tous les projets ont été intéressants, d'abord parce qu'ils ont été menés à leur terme, en moins sur les 6 équipes, en tout cas pas 7, hein, je crois qu'il y en a 6. Mais 6 équipes qui mènent à son terme le projet, c'est un succès. Hein, je veux dire, dans d'autres cas, on n'a pas eu un tel succès. Et puis, la diversité de ce qui a été produit montre bien aussi qu'on aurait pu avoir, à la limite, d'autres équipes, ça aurait pu donner des choses tout à fait différentes et qui avaient finalement toute leur pertinence. Alors, pour dire quand même des choses un peu négatives, parce que tout ça c'est très enthousiasmant et on se dit qu'on a bien eu raison de le faire, mais je pense qu'on entendra les étudiants là-dessus. On reste évidemment modeste. Pourquoi ? Bah parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tâtonné et que c'est un premier numéro, comme on dit, un numéro zéro. Donc nous, évidemment, on connaît maintenant, et vous encore plus que nous, les défauts. Les défauts qui sont dus au fait que les écoles n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, les directeurs ne sont pas toujours disponibles, les enseignants le sont bien plus, évidemment, et ils l'ont été assez bien. Mais en même temps, c'est toujours très difficile de faire la part des choses entre ce que doit être l'apport de l'enseignant, ce que doit être la réalisation de l'étudiant, sa forme d'autonomie, et puis quand il frappe à la porte pour dire « ben nous, on aimerait bien quand même avoir tel type de matériel, tel type de ceci, cela », il faut bien reconnaître que les écoles travaillent très, très différemment. C'est parfois très difficile de répondre aux attentes qui doivent être si on a besoin de quelque chose, c'est tout de suite. Donc manier une caisse d'avance, une régie d'avance, être capable de répondre sur des financements qui sont jamais très lourds, mais qui représentent quand même une somme importante, ça c'est une difficulté. Donc on a appris nous-mêmes à être un peu plus souple qu'on ne l'est, et puis à se dire de toute façon on a dit qu'on y allait, donc on va pas fallait. Donc au fur et à mesure on a franchi des obstacles qui étaient des obstacles parfois un peu peut-être un peu ridicule, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'était une manière aussi pour nous de sortir un peu de notre réserve, parce que c'est vrai que les écoles ont plus ou moins d'autonomie, et à partir de ce moment-là, pour obtenir, je veux pas dire des bouts de ficelle, ça peut être extrêmement compliqué. Voilà. Donc ça, on a levé les complications. Pour autant, c'était pas toujours très satisfaisant. Donc, fallait avoir vraiment toute la souplesse des étudiants. Finalement un peu comprendre la situation. Et puis, je crois qu'il y avait un vrai risque quand même que pour certains enseignants et pour certaines personnes extérieures au projet au départ, de se dire « mais finalement, ça n'a pas marché ». Alors c'est un peu ce que Gérard avait laissé entendre, parce que c'est une nébuleuse, c'est tellement compliqué, les gens n'ont pas le même niveau. Alors ça, c'était ça qui revenait. J'ose pas dire du côté d'ailleurs de l'éducation nationale, mais évidemment, c'est une manière de le dire, c'est une prétérition. Mais c'est vrai que les gens étaient finalement assez crédules, quoi, parce que, ça y est, on dit toujours, les gens ont tel niveau, mais voilà, c'est des gens qui ont un savoir-faire, mais c'est pas pour autant qu'ils ont le recul d'une culture qui va leur permettre d'appréhender une dimension esthétique ou celle de la création. Et on se dit, ça veut rien dire, ça. Si on a des gens qui n'ont pas le même niveau, ceux qui ont un niveau, et en fait, le niveau souvent est très disparate, et c'est très bien. Et la notion de culture, d'abord, c'est quelque chose qui est très... quand vous travaillez dans une équipe, il y en a un qui va tout de suite penser à quelque chose que l'autre ne pense pas, et l'apport se fait comme ça, quoi. Et c'était ça qu'on voulait, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dépasser, justement, ces sortes de clivages qui nous permettait de dire les étudiants sont beaucoup plus surprenants qu'on ne croit, ils surprennent sûrement eux-mêmes d'ailleurs en même temps, et il n'y a qu'à laisser faire, quoi. Et puis on verra bien si c'est mauvais, bon ou très bon. Et en fait, quand on disait ça comme ça, on n'y croyait pas du tout, parce que nous, on était persuadés que ce serait excellent. Donc de toute façon, et ça a été quand même le cas au regard de l'expérience, c'est-à-dire que l'excellence, pardonnez-moi de dire ça, tous les projets sont très bons, mais l'excellence, elle s'est pas manifestée nécessairement dans le projet pour lui-même, mais dans ce qu'il a permis autour, quoi. C'est-à-dire ce type de projet est déjà une réussite, quoi. Et je trouve que maintenant, pour ne pas être quand même trop long, je terminerai juste sur une sorte de plaidoyer qui consiste à dire on s'est un peu fait plaisir, on a peut-être un peu défriché, tout étant un petit peu relatif. On a montré ce qu'on savait déjà, finalement, mais que tout le monde pouvait travailler ensemble, tant qu'il reprend le flambeau. C'est-à-dire que ce qui serait un peu triste, il y a deux choses qui pourraient être tristes, c'est qui n'est pas une réalisation à un moment d'un prototype. Alors c'est d'ailleurs assez amusant de ce point de vue-là. Enfin, il faut être honnête, c'est que les critères qu'on a définis ont permis évidemment de montrer qu'il y avait une équipe lauréate. Pour autant, on se rendait très bien compte qu'il y avait d'autres projets qui étaient tout aussi intéressants, tout aussi importants et qui auraient pu être aussi lauréats. Alors, c'est pas le projet lauréat est un très bon projet, ça c'est évident. Mais c'est vrai que les discussions étaient assez curieuses parce que tout le monde était vraiment pas d'accord, quoi. Mais après, voilà, ça c'est le principe, on tranche. Mais on a toujours des regrets de se dire, ben ouais, mais enfin quand même, mais t'es sûr, mais ça quand même, je veux dire, ce projet-là, quand même, il serait beaucoup, il est beaucoup plus son implantation sur le site, et quand même. Donc tout le monde essayait de faire passer son projet, enfin celui qui lui tenait à cœur, ce qui était quand même assez. Assez amusant, moi, je trouvais. Enfin, c'est pas amusant pour vous, mais pour nous, ça l'était. C'est faut reconnaître. Voilà. Donc, le premier point, c'est est-ce que ce sera réalisé? Alors, ça, j'espère qu'Epa Marne va prendre le relais. Anne Berton, la directrice de cabinet, s'est un peu engagée avec l'université à pousser ça. Je sais que Bernard Dizembourg, qui est le président de la COMUE maintenant, enfin des presses, donc ce qui relève des écoles doctorales, lui aussi, qui avait commandé l'étude sur la dynamique du campus, lui aussi poussait vraiment à la roue pour qu'il y ait une réalisation. Et le deuxième point, c'est ce que je vous disais, c'est de trouver le moyen de redémarrer un projet de ce type, parce que une fois, c'est bien, mais c'est vrai que si on veut un petit peu faire changer l'état d'esprit et faire en sorte que les directeurs travaillent ensemble, c'est sûr qu'il faut continuer. Et puis en plus, même vis-à-vis des étudiants, continuer, c'est aussi l'assurance de s'améliorer dans la manière dont on prend le projet ou dont on améliore la thématique et même les réalisations. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en devenir. C'était une très bonne expérience. Je pense que c'était un bon sujet d'étude. Maintenant, il faut trouver, je dirais, les moyens. Mais c'est pas les moyens nécessairement financiers. C'est toujours les moyens financiers. Mais ça doit pas être seulement les moyens financiers. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que même au niveau de la communication, à tout point de vue, je veux dire, tout cela mérite très largement d'être amélioré, même si je pense qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, Gérard et moi-même, pardonnez-nous d'être un peu égocentriques, mais à deux, c'est plus facile. C'est vrai qu'on est content parce qu'après tout, nous, on a transformé l'essai. Et on le doit, si j'ose dire, aux trois populations qui composent les écoles, c'est-à-dire vraiment les étudiants, les enseignants et puis les agents techniques, parce que ce qu'on appelle les ATOS chez nous, parce que c'est quand même eux qui, à un moment, font les tirages, passent les bons de commande, enfin font tout ce qu'ils font, enfin tout ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que le projet se réalise. Donc c'est aussi ça qui est important dans la vie d'une école, c'est vraiment qu'on ait le sentiment qu'il y a bien trois équipes, si j'ose dire, qui a vraiment un type d'investissement assez important pour que ça donne des résultats très positifs. Voilà. Maintenant, on peut passer à des choses négatives aussi, tout en se félicitant encore de ce projet et en remerciant vraiment les étudiants de leur concours, si j'ose dire. Merci.
Bon. Alors, pendant que les images défilent, moi, je vais essayer plutôt de dresser une autre forme de bilan qui serait peut-être plus un bilan sur des acquis sur le plan pédagogique, bien sûr, mais à la fois sur la dimension qu'on appelle souvent cognitive, à savoir ce qui relève du raisonnement, et des enjeux qu'on appelle épistémologiques, qui relèvent de la connaissance pure. C'est-à-dire, en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était... Qu'avez-vous appris? Qu'alliez-vous apprendre? Donc, je vais essayer de joindre les deux en essayant de voir quels étaient les enjeux. Donc, ça défile. Donc, vous pouvez découvrir ou redécouvrir des éléments. Ce que je voudrais d'abord rappeler, ce qui n'était pas une évidence, je vais souvent prendre le point de vue des étudiants de métiers d'art, mais c'est peut-être parce que j'étais dans ce projet plus au titre de boule que de Marne-la-Vallée. Alors, avec toute l'ambiguïté que j'étais invitée dans ce projet, quand même, plutôt par le directeur de Marne-la-Vallée quand ça s'est lancé, qui avait dit, mais finalement, Aboul, t'es quand même architecte, et puis t'es quand même aussi urbaniste, et puis t'as été aussi designer, et puis voilà, donc t'es la bonne personne pour emmener une section de métier d'art, les miens sont donc liés aux arts de l'habitat, dans ce projet. Ce qui a étonné mes étudiants, je pense d'abord, alors maintenant c'est peut-être devenu une évidence, mais c'était l'idée que, on allait traiter de la question de l'espace public avec les enjeux de l'urbanité. C'est-à-dire que, très clairement, la vraie question, d'abord, c'était, mais on fait un projet sur un site et pas pour un lieu à l'intérieur. On ne va pas faire des meubles qui sont destinés à aller dans des maisons. D'ailleurs, on ne sait même pas si on va faire des meubles, in fine. C'est peut-être pas sûr que ce soit des meubles, mais plutôt des dispositifs d'installation. Donc on va être amené à s'emparer de questions qui normalement ne sont pas les nôtres. Elles ne sont pas les nôtres et en même temps nous sommes tous des habitants et nous sommes tous des urbains et donc nous sommes tous amenés à être des participants de la question urbaine et à aussi pouvoir peut-être la questionner. Je pense qu'on peut, à un moment donné, c'est intéressant d'opérer comme ça une translation, de quitter son territoire, de quitter son atelier, de quitter sa pratique qui est souvent en métier d'art une pratique individuelle, pour aller d'une part travailler dans un dispositif qui est de la co-élaboration. Après, ça devient de la collaboration, mais c'est d'abord élaborer ensemble et en commun. Et je pense que ça, rien que cela, être transplanté sur le campus de Marne, devoir penser pour un lieu à l'extérieur et le rendre hospitalier, c'était déjà une petite révolution dans ce qu'on imagine quand on arrive en DM1 de ce que sera sa pratique. Par ailleurs, je vais le relancer, non, parce qu'on est sur la dernière image, c'est ça ? J'appuie et puis ça revient. Puis je vais, excusez-moi, hein, je. Voilà, on y est. Voilà. Donc déjà, moi, je voulais qu'on revienne sur ces images là du campus de Marne, parce que il y a quand même une chose que je voudrais rappeler, qui n'était pas du tout une évidence quand on est étudiant en métier d'art. Les premières images sur ce campus, ça avait de quoi effectivement effrayer. Parce qu'il fallait comprendre que le temps de la ville, c'est un temps à 30 ans. Ça paraît évident quand on est soi-même praticien d'urbanisme. Mais quand on est en DM1, en métier d'art, on se dit qu'on a une année, on a un processus de projet, on va aboutir à un objet. Et là, se dire que de toute façon, on arrive dans un territoire qui est incomplet, mais dont c'est presque la nécessité. La ville en soi est synonyme d'incomplétude. Il faut l'accepter, ça fait partie de la donnée urbaine. Je vais même aller plus loin. Moi, j'ai été sollicitée la semaine dernière dans le cadre d'une consultation pour une ville éminemment constituée sur le plan urbain, qui est Paris. La ville de Paris lance une consultation sur le réaménagement de ses places. C'est aussi significatif du fait que ces places, tout aussi constituées et décidées, définitives et dessinées soient-elles et abouties, elles ne sont pas complètes, puisqu'on peut réintervenir dessus et les transformer. Et le temps de la ville, donc, est un temps à 30 ans, c'est un temps de la mutation permanente. Je crois que ça, c'était déjà, pour les gens des métiers d'art, pas quelque chose de facile à saisir. Non seulement ils se demandaient ce qu'ils allaient faire dans cette galère, ce campus pas très sympathique sur les premières images, mais je pense que surtout, il y avait cette idée de comment peut-on s'inscrire dans ce processus-là de fabrication de la ville. L'autre question qui se posait, c'était, notamment dans les arts de l'habitat, on est donc protégé, on a un toit, on a des parois, on a des murs, on a une enveloppe, et on vient donc faire quelque chose à l'intérieur. Là, il fallait s'adresser à des questions d'usage, d'enjeux, donc des enjeux de fonctionnalité. Je me rappelle très très bien d'une étudiante, c'était je crois une étudiante de Dupéret, disant au jury, au comité technique, pendant une présentation, mais alors il faut vraiment être fonctionnaliste avec vous. Ça paraissait comme ça très contradictoire, de s'emparer des questions d'usage immédiate et de fonction. Et en même temps, il fallait s'interroger sur des conditions d'urbanité quand on est à l'extérieur, c'est pouvoir déjeuner, pouvoir se rencontrer, pouvoir converser, pouvoir s'asseoir, pouvoir éventuellement faire la sieste, pouvoir lire. Et puis très très vite, c'était aussi, et certains projets en témoignent, où est-ce que je place mon vélo ? Qu'est-ce que je vais faire de mes déchets ? Et la réponse n'était pas une réponse en termes de design urbain, parce que ce n'était pas forcément proposer des tables, des chaises, des poubelles et des supports pour attacher son vélo. C'était autre chose qui était attendu, c'était un dispositif qui permettrait d'abord et avant tout de se rencontrer. Rendre ce lieu hospitalier, c'est aussi faire en sorte que ce soit vivant et pas juste des enjeux immédiats, mais des enjeux, je dirais, de médiation sur des durées et des temporalités un peu différentes. Donc la première évolution, c'est quitter l'atelier, quitter une pratique individuelle, aller travailler avec d'autres. La deuxième révolution, c'est aussi se dire qu'on ne fera pas une œuvre. Et en métier d'art, quoi qu'on en dise, dans une démarche de projet, il y a quand même cette idée d'un aboutissement, d'une sorte de concrétude, de concrétisation, qui dit qu'au-delà du projet, à un moment donné, il y a un objet dans son unicité. Ça fait œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on allait abandonner le vouloir artistique. Ce qu'on allait abandonner, l'idée que ça pouvait être beau et élégant. Ce qu'on allait abandonner, c'était juste l'idée que ce ne serait pas une œuvre individuelle et aboutie, mais que ce que le processus du travail collectif et collaboratif allait apporter, c'était plutôt d'emblée questionner qu'est-ce que moi, ma discipline, mon médium, et que ce soit la gravure ou que ce soit la céramique ou que ce soit une discipline ou plutôt un matériau dont je maîtrise les modes de mise en œuvre, la question fondamentale à se poser, c'était qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à la ville ? Parce que ce qu'on a sans doute oublié de dire, c'est qu'à l'origine de ce projet, la vraie question, c'est la visibilité des métiers d'art dans la cité. C'était ça la première incitation qui engageait ce dispositif d'une rencontre collective avec des gens qui maîtrisent d'autres compétences dans d'autres disciplines, et notamment les ingénieurs de la ville de Paris, qui sont, eux, les ingénieurs du génie urbain et les spécialistes de l'aménagement du territoire et des espaces publics. Et qui, eux, sont parfois destinés à être des... Comment dire pas les maîtres d'œuvre, ça c'est plutôt les architectes, mais disons des commanditaires, hein, oui, auprès des designers. Et donc là, c'était soudain, il n'y a pas directement de designer, ça va se passer autrement. Mais d'où l'intérêt aussi de se dire, on aimerait bien avoir une école d'art et de design avec nous sur le prolongement de cette opération, et quelle sera la place qu'ils pourront se réserver. Donc la vraie question pour tous les étudiants, c'était de se dire, un, qu'est-ce que ma discipline peut apporter à l'espace public ? Qu'est-ce que ma discipline peut apporter à mes petits camarades du collectif qui sont, eux, porteurs d'un autre savoir ? Et comment on va pouvoir le partager ? Comment on va pouvoir faire processus commun ? Peut-être pas œuvre, peut-être pas chef-d'œuvre, loin de là, mais en tout cas, un système qui sera accueillant, hospitalier, et qui donnera une place, j'ai envie de dire, à l'autre. Parce qu'il y a un vrai enjeu éthique dans ce dispositif qui était d'abord de libérer de la place pour l'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'autre ? Qu'est-ce que c'est que l'habitant dans sa différence ? Et comment lui pourra-t-il se sentir là, accueilli par ce que je vais mettre en place avec mes petits camarades des autres écoles ? Puis il y avait une autre évolution. C'était la troisième, mais ce n'était pas la plus simple. C'est la révolution qui serait liée... Alors, il y en a deux autres. Il y en a une qui est liée au changement d'échelle. Je l'ai déjà un peu évoqué. C'est à la fois faire de la ville, donc une échelle urbaine. C'est à la fois faire de l'hospitalité, donc effectivement se confronter à une échelle un peu plus domestique, même si c'est ces parcelles allouées sur le campus de Marne, c'est ce qu'on pourrait appeler des sortes de chambres à ciel ouvert. Elles sont délimitées par le système Vierre. Elles n'ont que très peu de qualifications, et tout l'enjeu, c'était bien arriver à qualifier ces lieux, qui sont, je le dis, encore d'une banalité redoutable, mais d'une normalité aussi redoutable. La ville récente, nouvelle, est faite de ce type de lieu qu'il faut parvenir à investir. Donc l'autre révolution, c'était échelle urbaine à conjuguer avec une échelle domestique pour faire hospitalité, avec une échelle corporelle, il faut pouvoir s'y installer et s'y installer à plusieurs. Et puis sans doute aussi... une vraie dimension signalétique, donc là, c'est presque parfois une échelle peut-être monumentale. En tout cas, il fallait accepter de s'y confronter, être identifiable dans le territoire, dans un lieu qui est par ailleurs extrêmement évidé et qui n'a pas forcément beaucoup de repères, notamment dans sa qualité architecturale. Donc ça voulait dire conjuguer ces échelles-là, alors que chacun des participants dans sa discipline, quand on est ingénieur, on connaît plus l'échelle urbaine, mais pas forcément l'échelle corporelle. Quand on est plutôt en métier d'art, on est beaucoup plus associé à des questions liées à la main, liées au bras, liées à une gestuelle. Mais l'échelle monumentale, c'est pas forcément celle qui nous est la plus familière, etc., etc. Et là, il fallait arriver à les conjuguer tous ensemble. Et enfin, presque contradiction, c'était au-delà du paradoxe, parce que ça posait un vrai problème pour les étudiants, je crois, et notamment en métier d'art, c'est la question du temps. Quand on est en métier d'art, on aime prendre son temps. On aime prendre son temps parce qu'on aime témoigner d'un savoir-faire, on aime témoigner d'une méticulosité, d'une précision, et que cette maîtrise, elle est exigeante et je dirais même chronophage, surtout quand on veut faire œuvre. Or, dans le cadre là d'Art et Cité, il n'y avait pas le temps pour ça. Il n'y avait pas le temps pour ça, c'était même pire que ça. C'était absolument déstabilisant, c'était même absolument frustrant. En métier d'art, on a souvent un an pour faire son diplôme en DMA 2, un an sur un projet, même si on fait plusieurs petits projets en DMA 1. Là, il y aurait, stricto sensu, une semaine pour prendre connaissance des conditions de la commande, des programmes, de l'usage, de ce qu'il fallait construire, explorer le lieu, le parcourir, et puis s'installer dans l'école d'archi de Marne-la-Vallée et le campus. Une semaine donc pour être en phase d'analyse et de formulation de plusieurs hypothèses d'intervention. Ensuite, il y avait un petit laps de temps de plusieurs aussi semaines où vous vous êtes retrouvés, rencontrés, vous avez fait des plateformes de contact, mais il y aurait une seule autre semaine. Il n'y a eu que deux stages d'atelier intensif. Et ce n'est même pas une semaine entière, c'est souvent plutôt 5 jours de rencontre. Et donc, il y avait 5 jours pour développer. Développer, ça voulait dire aussi se confronter à la question du dimensionnement et des échelles, aborder des enjeux de faisabilité, puisqu'il y avait quand même à produire à l'échelle un demi, un fragment de cette installation. Il y avait des maquettes à produire. Il y avait aussi à dessiner. Il y avait... Et là, c'était pas rien, il y avait à budgéter. Il y avait à budgéter à l'issue du premier stage intensif ou entre les deux pour pouvoir avoir la matière d'œuvre pour fabriquer les éléments de démonstration qui interviendraient dans la semaine d'intensif plutôt liée au développement. Donc la critique, c'est vrai qu'on pourrait faire hein, immédiatement, c'est absolument au-delà de ce qu'on attend en métier d'art. Et ça n'a même rien à voir, c'est très frustrant, parce qu'en métier d'art, on est actuellement sur l'idéologie du slow. On est dans le slow-med. C'est ce qui est, depuis plusieurs années, quand même médiatisé. Là, on vous plaçait dans une condition de challenge, de performance. Alors, ça peut être très jouissif, sans doute, de sortir du projet très vite, mais pour certains, c'était plus qu'une gageure... quelque chose de très, très inquiétant. En tout cas, ça, on l'a senti dans les enseignants qui ont participé. Et en même temps, la preuve en est que c'est possible. Et puis, j'ai envie de dire, pour finir sur ce bilan, de ce que ça vous a apporté, moi, me semble-t-il, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est que finalement, avec toutes ces contraintes qui étaient sans rapport avec les habitudes d'exercice, sortir de l'atelier, sortir de sa pratique individuelle, sortir de son confort, du côté protecteur de l'école pour aller sur un autre campus et être beaucoup dehors, sortir du temps accordé, sortir aussi des, comment dire, de la reconnaissance et de la légitimité que donne un métier qu'a son atelier dans une école pour aller là, le faire partager à des gens qui en sont totalement ignorants, même s'ils ont votre âge. J'ai envie de dire que ce que vous avez gagné, c'était pour la première fois comprendre que vous pouvez construire les conditions de votre commande. Que finalement, ce que l'espace public offre, c'est un vrai laboratoire d'expérimentation et d'investigation. C'était à la fois prendre votre liberté en tant, non pas qu'artisan créateur, loin de là, parce que je pense que c'est pas ça ce qu'on forme en DMA, pas des artisans créateurs, c'est pas notre mission, c'est pas non plus dans les textes. Ce qu'on forme, c'est des concepteurs, réalisateurs, donc des gens qui sont capables de mener jusqu'à un certain degré d'extrémité le projet qui est en cours, pas forcément aboutir à un objet définitif. Mais ce que vous avez gagné à ce moment-là, en vous emparant de cette liberté, il y a matière à faire du projet dans l'espace public, il y a tant à faire dans cette ville qui n'est pas aboutie ni finie, c'est aussi d'arriver à montrer que les métiers d'art peuvent exister, ils pouvaient avoir leur place. Il y avait vraiment de l'ébénisterie, vraiment de la céramique, il y avait de réels enjeux sur le textile. On les a vus, je pense, les images parlaient d'elles-mêmes sur une vraie capacité à opérer de la translation, justement en changeant d'échelle, pour arriver à signifier votre degré de maîtrise. Et je pense que la dernière chose que vous avez vraiment réussi à gagner, c'est que dans un contexte de crise économique, où il y aurait une tendance naturelle au repli sur soi, sur ses savoir-faire, sur ses habitudes, parce qu'elles sont confortables, vous, ce que vous aurez appris à faire, c'est peut-être vous mettre en danger, peut-être vous mettre en difficulté, mais surtout aller à la rencontre de l'altérité et de la différence, et arriver à comprendre ce qu'est un réseau de compétences complémentaires, non pas être dans « je recherche le même que moi », Et du coup, je me mets aussi en concurrence systématique avec ceux qui auraient éventuellement, qui seraient dépositaires de savoir assez proches des miens. Mais au contraire, je vais aller à la rencontre de ceux qui peuvent avoir besoin de mon savoir, comme moi j'ai besoin du leur, de mon savoir et de mon savoir-faire. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Je crois que la vraie liberté, elle n'est pas... La vraie liberté, c'est pas dans un métier d'art d'être sur soi sa propre pratique. La vraie liberté, c'est, à mon sens, de pouvoir aller l'apporter pour qu'elle puisse être recevable. Parce que du coup, vous ne serez pas dans des rapports de médiation qui sont des rapports de commerce. Vous serez autrement puisque vous serez vous-même dans la suggestion de la nécessité de vous faire intervenir sur place. Et donc là, vous aurez les moyens, à mon sens, d'être pas votre propre commanditaire comme peut l'être un créateur artiste, mais d'être bien plutôt force de proposition et de service. Et je pense que c'est dans cette générosité-là qu'il y a des axes de développement pour les métiers d'art, pour imaginer leur mutation. Voilà, j'ai été un peu longue, je vous remercie, excusez-moi.
Oui, merci Pascal, je ne pensais pas qu'on atteindrait des sommets philosophiques à ce point, mais en tout cas, c'est dit. Et c'est vrai que cette idée de... Enfin bon, peut-être qu'Alain, mais c'est vrai que c'est difficile. Souvent on dit on va pas plus loin que le bout de son établi quand on est dans les métiers d'art, ce qui a été le cas très souvent. Et c'est difficile d'être, ou alors faut sortir. C'est-à-dire c'est difficile d'être dedans et dehors en même temps. Philosophiquement, enfin c'est éreintant. Quand tu veux être dedans, dehors, et c'est ce qui conditionnait un peu la vie de l'artisan d'art avant. C'est à la fois t'obliger de t'extraire de ton puits, hein, de ta verticalité, et passer dehors. Et puis c'est pour ça qu'on restait dedans et qu'en restant dedans, on s'atrophie. Et là, ce type d'expérience permet en effet de partager et d'être dedans et dehors en même temps, mais d'une façon collective. C'est-à-dire que tu t'enrichis des autres. Et ce que disait Montaigne, hein, laisse limer la cervelle à celle des autres. Peut-être qu'on peut faire intervenir maintenant nos... ils vont venir là ou ils parlent... Venez, hein, nous, comme ça nous on va pouvoir s'installer en face, on va les regarder, hein, les écouter.
Merci. Allez Cédric, oui. Bon, alors moi, je vais me présenter. Je m'appelle Cédric, je suis en architecture en troisième année. Et j'ai participé à ce concours pour rencontrer des gens et pour rencontrer d'autres savoir-faire. Parce qu'en fait, en architecture, je me suis rendu compte qu'on était assez bridés, en fait, qu'on ne savait pas ce qui pouvait se faire au niveau du détail. Enfin, on nous demande constamment de travailler le détail, de le dessiner, mais on ne connaît pas les capacités des matériaux, on ne connaît pas tout ça. Alors que les étudiants en école d'art appliqué sont spécialistes là-dedans. Et je pense que c'est dû un peu à la période dans laquelle on est. Et je ne sais pas, nous les architectes qu'on idolâtre un petit peu en architecture, c'est des architectes qui ont travaillé avec ces gens-là. On peut parler de Scarpa, on peut parler de Fernand Pouillon. Et c'est des gens qui ont réussi à collaborer avec des sculpteurs, des céramistes, des gens qui connaissaient vraiment leur matière, leurs matériaux. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où on a tout sectorisé. Et je pense que ça ne marche pas du tout. Et on est aussi dans une espèce de période de renouveau où il y a des collectifs qui commencent à se mettre en place, où les gens se réunissent. Et je pense qu'on est dans un besoin de remettre la main sur le processus de conception et de fabrication. Et je pense que c'est en se réunissant, nous tous ensemble, en réunissant nos savoir-faire, que c'est possible. Et voilà, au niveau du concours, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Après, on nous en avait parlé, pas comme un concours d'idées, mais comme un concours où, à un moment, il pourrait y avoir une vraie réalisation. Pour l'instant, nous on va se battre pour ça, mais pour l'instant, personne nous a reparlé de cette réalisation. Mais je pense que c'est un concours qui a lieu d'être et qui a lieu d'être développé vraiment. Et même au niveau de la formation, moi je sais que étant en troisième année d'architecture, ça me passionnerait de pouvoir faire une année dans une école d'art appliqué. Sauf que c'est assez compliqué, il n'y a rien n'est fait pour qu'on puisse passer d'une école à l'autre, alors que je pense que c'est assez primordial. Et voilà, nous, en architecture, on étouffe pas mal, surtout nous qui sommes à Marne-la-Vallée, on est dans une espèce d'enclave, et on a besoin d'avoir une ouverture sur, sur d'autres choses. Comment ? Franchement, quand on a parlé entre étudiants, on s'y sent coincé, quoi. Et je pense que c'est aussi parce jusque-là, on avait peut-être peu de partenariats avec d'autres étudiants, d'autres. Et voilà, on va à Marne-la-Vallée pour étudier l'architecture et on rentre vite sur Paris pour pouvoir vivre d'autres choses, parce que sur Marne-la-Vallée, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Après, c'est sur 30 ans, donc peut-être que dans 30 ans, ce sera fou. Voilà, la vie sera dense. Là, les trous vont commencer à se remplir et peut-être que ça va se construire. Mais pour l'instant, on attend d'avoir plus de contacts avec d'autres étudiants. Et puis l'architecture, ça touche vraiment à tous les domaines. Et je pense qu'en fin de compte, on touche à tous les domaines. On connaît très peu sur tous ces domaines. Et enfin, c'est tous les gens qui sont en art appliqué. Enfin, puis après la sociologie. Enfin, tout ça qui sont là pour nous. Enfin, on a besoin d'eux, quoi. Et voilà. Je pense que ils sont vraiment plus qualifiés que nous pour. Nous, on est là pour réunir les gens, peut-être, mais c'est eux qui ont le vrai savoir-faire. Voilà.
Moi, c'est Sarah, donc je suis en DMA céramique à Duperré. Je pense que je ne pourrais pas être aussi complète que lui. Il a assez bien résumé la situation. Je pense qu'on a tous été très heureux de faire cette rencontre et de faire ce concours. Parce qu'en effet, on n'a pas l'occasion, même au sein de chacune de nos écoles respectives, de croiser, même les différentes années, c'est très rare de faire des rencontres, même première année, deuxième année. Et alors, avec des écoles différentes, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment intéressant et qui nous a, je pense, beaucoup motivés au début. C'est vrai que ça n'a pas été si facile que ça. Ça a demandé beaucoup d'énergie, on va dire. Je sais pas trop comment résumer ça, mais c'est vrai que ça a été très enrichissant. Et en fait, on a montré que c'était pas forcément nos spécialités qui racontaient notre histoire. C'était aussi tous nos savoirs qu'on a acquis. Toute notre culture et
on n'était pas là qu'en tant que céramiste.
Voilà, enfin je sais que par exemple j'ai beaucoup travaillé sur la communication alors que j'en avais jamais fait et finalement on a tous inventé, on s'est tous trouvé des qualités, donc ça a été vraiment enrichissant pour ça. On a vraiment face à ce temps très court, on a vraiment dû puiser tout ce qu'on avait et faire de l'improvisation. Et je pense que ça a été très enrichissant. C'est clair que cette histoire de réalisation finale, ça nous prend un petit peu. C'est dans nos têtes. Et c'est clair qu'on s'est battu. On a monté ce projet pour qu'il soit réalisable. Et c'est quand même quelque chose qu'on souhaite. Qu'on souhaite vraiment.
J'étais assez content que des personnes comme les directeurs de l'INMA, le directeur de l'école de Marne-la-Vallée, ou encore Madame Martin, aient eu cette initiative de mélanger architectes et artisans des métiers d'art, parce que finalement, l'idée, les notions de qualité et de pérennité propres au savoir-faire de métiers d'art, c'est plutôt très, très, très compatible avec l'architecture. Et le fait de mélanger justement toutes ces préoccupations, ça donne des objets et des savoirs vraiment communs à tous, qu'on a pu exploiter au maximum.
Ouais, ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir faire quelque chose vraiment à échelle 1, un projet réel. On parle souvent en France de diplôme, c'est très important le diplôme. D'un côté, on peut apprendre aussi une formation sur le tas. sur des projets qui sont réels pour le coup. Et là, on était dans quelque chose de réel, quelque chose sur notre environnement. Et du coup, je pense que c'est une opportunité qui n'est pas souvent permise dans la plupart des formations. On est vraiment justement bloqué dans un cursus pour atteindre un diplôme. Enfin, c'est la finalité. Et on n'a pas l'opportunité de pouvoir travailler sur des projets comme ceci. Donc pour ça, c'était vachement intéressant.
On va faire un projet qui nous est propre, enfin voilà, qu'on a envie de développer, un livre, une céramique, une série de bols, peu importe, mais c'est pas vraiment pour n'importe quel usager, n'importe quel utilisateur. Et là, je pense que ça nous a fait du bien aussi de se rendre compte qu'on pouvait le faire et pouvait le proposer, et qu'on avait la permission en fait de le faire parce que on l'apprend pas forcément. Donc c'était assez chouette en tant que DMA de voir ça. Voilà.
J'ai aussi l'impression que ce qu'a été une vraie... Alors, je prends encore le point de vue des métiers d'art, mais c'est parce que, bon, je vous côtoie beaucoup, mais en même temps, bon, je côtoie aussi beaucoup les architectes, mais dans d'autres cas. Je pense que ce qui a été aussi assez incroyable dans l'idée d'abandonner une pratique individuelle, finalement, de sa propre production, ce qu'expliquait très bien Sarah, c'est aussi que ça vous rend moins vulnérable. Comment dire ? Quand vous êtes sur votre production personnelle, ce que j'appelle le syndrome « moi, ma vie, mon œuvre », vous savez, mais qui nous est tous arrivé ? Je veux dire, on est tous passés par là. C'est peut-être d'autant plus facile pour moi d'en parler que je l'ai peut-être justement croisé sur ma route aussi, ce syndrome-là. Un architecte, c'est aussi un créateur. Bon. À un moment donné, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que ça vous rend moins vulnérable. D'abord parce que vous êtes groupe dans un collectif, et puis surtout parce qu'il y a des usagers auquel vous pensez, et vous projetiez hein, comme usager. Je pense que vous avez testé vous-même, et comment je viens avec mon vélo, et où est-ce que je le mets, et comment ça tient. Mais au moins, ça permettait quand même de mettre une distance, et du coup, ça évitait que vous soyez vous-même à la fois. Votre maître d'œuvre, votre maître d'ouvrage, votre entreprise, vous étiez un petit peu tout ça, mais pas complètement tout ça, parce que vous étiez un collectif. Il y avait une forme de jeu de rôle qui faisait que la responsabilité, elle incombe pas à une personne seule. Le problème d'un artisan créateur, c'est que mine de rien, il est un petit peu tout seul, quoi qu'on dise, sur une pratique individuelle, mais aussi isolé dans une réalisation. Et je pense que là, ça permettait aussi de renvoyer la responsabilité de cette démarche du projet vers le collectif. Donc il y a eu des phénomènes de portage, plus ou moins par les uns ou par les autres, qui pouvaient se relayer effectivement en passant par la communication visuelle, la dimension graphique de la chose, et puis en même temps, comme vous travaillez tous plus ou moins sur AutoCAD, vous pouviez aussi transmuter les fichiers. C'est-à-dire que vous avez vu que il y avait en même temps des outils, et notamment les outils numériques, que vous partagiez à peu près tous, que ce soit Photoshop, que ce soit InDesign. Il fallait les utiliser tout le monde. Donc du coup, c'est aussi ça. Il y avait cette dimension-là qui permettait de vous compléter. Mais en tout cas, enlever cette part affective qui vous rend vulnérable, et qui vous rend vulnérable justement quand dans le projet, dans la démarche, ça dysfonctionne. Vous êtes perdu parce que c'est tout votre être qui soudain est impliqué là sur l'établi ou sur la table de travail. Donc là, ça change tout.
Serais-je d'accord ou pas d'accord ?
Il y a quelqu'un qui voulait poser une question, Jacqueline.
Oui, bonjour. En fait, c'était juste pour que... Je ne sais pas si c'est les gagnants du concours qui sont présents ou si c'est juste des participants, mais on a vu des photos passer et je ne vois pas le rapport avec l'intervention de la céramiste. Est-ce que c'est l'un de vos projets qui a été... Voilà, juste savoir quel est votre métier en apprentissage apparaît dans les...
Déjà, je ne sais pas si vous avez ça. Si vous avez ça, vous avez donc page... ...4. Une photo de la fabrication. Donc en fait, c'était... On a pensé à... notre projet, c'était de... proposer une plateforme sur laquelle les personnes pouvaient se rencontrer, et il y avait un fil conducteur qui déployait toute la structure. Donc on a travaillé sur la latte, Et en fait, donc c'était un espèce de fil d'Ariane, et on a essayé de, en plaçant dans différents endroits notre structure, de les connecter entre elles par un élément sonore qui était en fait une cloche, et donc qui a été faite en céramique. Et donc pour ce fait, j'ai vraiment voulu montrer le lien que ça avait avec le territoire dans lequel elle était implantée, et on a fait en fait une cloche avec la terre qu'on a ramassée sur les points d'implantation. Et donc
une vraie approche urbaine en fait au départ, une stratégie urbaine, et on voulait vraiment lier notre structure. Là on voit très peu de choses en fait de notre rendu, mais on avait une stratégie urbaine de redynamiser des flux, retravailler vraiment les flux sur le campus, réapporter des nouveaux réseaux, par exemple de book crossing, etc. Et l'idée, c'était vraiment, comme disait Sarah, de relier ces structures entre elles à travers le lien sonore en partie. Et on ne pensait pas, même Sarah ne pensait pas, qu'on pouvait vraiment ramasser de la terre, en faire un pain et ensuite en faire un objet. Et en fait, l'idée a surgi et ça a marché. Et ça a été fou, on a trouvé ça fou comme geste, juste de ramasser la terre, la modeler, utiliser un peu d'énergie quand même, et ensuite de la poser, et voilà. Et on se rend compte que peut-être que si le concours avait eu lieu dans un autre lieu, à l'autre bout de la France, on aurait eu une autre composition de la terre, et donc on aurait eu une autre matérialité, un autre son, et voilà, ça nous a permis...
au campus, et ce qui nous a permis d'ancrer vraiment notre projet et de le défendre, et aussi de parler des métiers d'art et de montrer quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude forcément de voir, et
quelque chose d'assez brut,
voilà, et de montrer vraiment ça a été vraiment quelque chose qu'on a voulu exposer, qu'on a défendu. On a vraiment montré la terre brute utilisée, et après les étapes de cuisson en fait, juste. Donc c'était vraiment quelque chose que moi, en tout cas, en tant que céramiste, j'ai voulu faire partager, en fait. Voilà.
C'est bien, effectivement, au moment des Fab Labs, des systèmes complexes, de réinventer, non pas le Deus Ex Machina, mais au contraire, la genèse de base, c'est quand même effectivement important. Ce que je voulais dire un peu pour nous amuser un peu éventuellement, est-ce qu'on est moins créatif quand on est plusieurs que quand on est effectivement seul avec sa création, etc. Je relevais un peu et j'essayais de pousser un peu cette façon effectivement que nous avons en école d'art. Même parfois dans les écoles d'art appliquées, même parfois dans les écoles d'architecture, de dire voilà, pousse ton projet, dit-on à l'étudiant, et effectivement dis-nous qui tu es avec ton projet personnel. Ça fait partie de la formation que nous faisons, dans toutes les écoles. Néanmoins, on sait aujourd'hui que vous êtes en même temps confrontés à des projets qui sont de plus en plus complexes, qui nécessite donc évidemment bien sûr une coopération, un travail en équipe. Nous sommes aussi à un moment où justement les modes de fabrication changent complètement, c'est-à-dire que nous pouvons retrouver avec des outils extrêmement complexes, numériques, élaborés, des façons de travailler sur des projets individuels où chaque projet est différent de celui à suivre. Donc on est à un moment à la fois où on peut fabriquer du complexe, où on peut fabriquer de l'objet entre guillemets différent pour chacun des projets, et où on a besoin aussi de fabriquer à la fois des systèmes et à la fois de retrouver, oui, effectivement aussi, des genèses, si on peut mettre cela comme cela. Donc, il me semble que ce type de projet qui met ensemble... Et puis, autre chose, j'oublie quelque chose de très important, la question des temps, C'est-à-dire que nous avons plusieurs temps, c'est-à-dire que nous avons des moments où nous avons besoin effectivement d'être seuls sur une création pour pousser dans un temps long, hein, vous avez parlé de tout cela hein, aujourd'hui, pousser dans un temps long une création. Et puis, à un moment donné aussi, des moments où au contraire on va être dans la rapidité, dans la nécessité de construire un projet, de le communiquer, de toucher à tout l'ensemble de ce qui construit un projet. Et il faut bien que nous, les pédagogues, eh bien, effectivement, on vous fasse vivre ces différentes... Enfin, ou que vous viviez, on a, vous n'avez pas toujours besoin de nous d'ailleurs, hein, que vous viviez cet ensemble-là, c'est-à-dire effectivement celui de votre ton long personnel, vers un objet qui va se déployer lentement, et puis cette capacité que vous avez de regarder ensemble cet environnement dans lequel nous vivons, et ensemble, parce que vous êtes tous différents, de proposer des projets complètement différents. Et donc en cela, effectivement, vous avez besoin de passer à des visions, plans architecturales, à des visions au contraire sensibles, intuitives, créatives, plus créatives. Et tout cela, effectivement, il faut absolument que vous puissiez passer à ces différents temps et à ces différentes façons de faire. C'était, le bel objectif poursuivi par ce concours, mais c'est aussi celui, effectivement, qu'on essaye en vous proposant des projets et des pédagogies différentes dans nos écoles. Et probablement aussi, c'est aussi prétexte pour que nous, demain, on va dire, les penseurs de pédagogie, si, entre guillemets, plein de guillemets, on essaye de voir s'il n'y a pas des moments aussi peut-être à faire que... on peut rêver hein, que vous passiez 6 mois ici ou 6 mois là dans des systèmes de pensée et de création un peu différents que sont effectivement, par exemple, l'ingénierie, l'architecture ou les métiers d'art ou bien sûr la question de l'art contemporain ou du design dans nos écoles d'art.
Merci. Pardon, Constance, vous vouliez intervenir ?
Bonsoir, donc moi je ne suis pas une ancienne étudiante en art ou en métier d'art, par contre je suis très proche de la culture et surtout des artistes. Et en fait j'aimerais intervenir, et la conférence m'intéresse énormément, sur le fait que donc, vous, enseignant, soulevez le problème de l'égocentrisme d'un artiste par l'enseignement qu'on lui a apporté. Et je trouve ça très bien ce que vous avez mis en place pour essayer d'extérioriser en fait... sur un espace public, et la notion d'espace public, elle est plus qu'importante maintenant. J'ai eu l'occasion de créer un projet où des artistes devaient intervenir. Et malheureusement, pour obtenir les subventions, entre guillemets, je suis désolée de parler d'argent, mais c'est quand même une réalité, on était obligé de suggérer la participation des habitants, etc. Donc je pense qu'il est vraiment clairement utile maintenant de ne plus... de ne plus laisser les étudiants en art s'isoler dans leur art, même s'ils ont envie d'être créateurs, et je les comprends et je les incite vraiment à le faire. Mais il y a une autre dimension à soulever, et franchement, je vous félicite d'y penser, parce que c'est trop rare, quoi.
Je pense qu'elles existent, enfin. Et ça a toujours existé.
Des gens comme Yoran Gers, il y a 25 ans qui font participer leurs habitants à toutes leurs pièces. Ce sont des protocoles, des procédures et des dispositifs. Peut-être que moi, ce qui m'a surpris, puisque moi j'ai commencé à enseigner il y a plus de 15 ans dans l'université, et puis après en école d'architecture, peut-être que c'est ce qui m'a surpris quand je suis arrivée, puisque c'est le lieu où je suis arrivée le plus tardivement, c'était effectivement les écoles d'art appliquées, notamment les métiers d'art. Peut-être que c'est ce qui m'a surpris, effectivement. Je sentais que la technicité de l'apprentissage, hein, qui vient des médiums convoqués, qui vient de la maîtrise du bois, qui vient de la maîtrise de la céramique, qui vient de tout ça, impliquait... Comment vous dire ? Qu'on passe beaucoup de temps à fabriquer la caisse à outils de tous les savoir-faire exhaustifs qu'on aurait peut-être un jour l'occasion de manipuler, mais qu'à côté de ça, il y avait une dimension qui était jamais mise au centre de la démarche de projet, c'était l'autre, l'habitant, l'autre, l'idée qu'on ne travaille pas pour soi, on n'est pas dans sa satisfaction, ce que j'appelle auto-centré, pas égocentré, mais auto-centré. Et ça, moi, ça m'a beaucoup troublée parce que dans les écoles du ministère de la Culture, donc, que représente Jacqueline, les écoles d'art et design que je connais parfaitement bien depuis presque 30 ans, c'était déjà des questions qui se posaient il y a donc 30 ans, 25 ans. Et c'est vrai que j'ai été... Pardon, enfin, c'est pas pour être critique sur les écoles supérieures d'art appliqué, mais j'ai été assez surprise. Alors, est-ce que c'était un retour du refoulé, ça, moi, ma vie, mon œuvre ? J'ai été assez surprise de la prégnance que ça avait. Et qui, à mon sens, et là, je le dis moi en tant que pédagogue, inquiète parfois du devenir de, pas de mes étudiants après, je pense qu'après ils vont très bien, mais inquiète de leur devenir pendant les deux années du cycle, de cette dimension excessivement affective que prend la part de je fais une œuvre et pire même parfois je dois faire un chef-d'œuvre. Et moi je passe mon temps à dire quand même, on fait pas le mof quoi, on se calme, on n'est pas là pour ça, parce que à mon sens, faire œuvre c'est 40 ans, 50 ans quoi. C'est quand on fera le bilan, c'est une vie quoi. Donc on peut pas jouer comme ça son devenir en l'espace de finalement de ce qu'est une démarche de projet qui elle-même va se sédimenter. Et c'est vrai que quand on vient du milieu de l'architecture, je pensais, vous avez évoqué Scarpa tout à l'heure et des gens comme Pouillon, moi je pensais à Zumthor, qui est un excellent connaisseur de la matière, de la mise en œuvre de la matière et du matériau. Quelqu'un comme Zumthor, c'est quelqu'un qui a conscience que d'une certaine manière, indépendamment de la morphologie d'un projet, on passe presque sa vie à refaire constamment le même projet. Parce que et il ne se ressemble jamais, quoi. Simplement, à un moment donné, il met en jeu des usages de la capacité à être utilisable. Et peut-être que cette dimension-là qui existait dans les métiers d'art, et je pense qu'elle existait jusque dans les années 50, puisque moi j'ai été formée au mobilier par René-Jean Cayette, qui était quelqu'un qui connaissait parfaitement bien les métiers d'art, quoi. Ça existait, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et c'est peut-être en partant de cette déperdition historique-là, à un moment donné, qu'il faudrait peut-être arriver à recreuser et redonner un sens qui, du coup, ne permettrait pas d'isoler et de placer. C'est pour ça que je prenais ma distance vis-à-vis du... Parce que artisan-créateur, pour moi, c'est un statut économique. C'est pas en soi une profession, quoi. Ce qui est une profession, c'est concepteur-réalisateur. On conçoit, on réalise, on fabrique et on mène tout le processus. On devrait pouvoir mettre en place très très vite dans les démarches de projet, donc dès la formation, mais pour que ça persiste après, quand on travaille, on devrait mettre en place un certain nombre d'éléments qui permettent de se protéger de ça, de cette surexposition qui fragilise et qui est peut-être aussi, quand on entend des maîtres d'art pas toujours très heureux de leurs conditions de travail, il y en a quand même, on les entend parfois, on devrait le re-questionner. Et c'est peut-être pas un hasard si c'était Emmanuel Barois qui était dans le jury pour représenter les maîtres d'art, enfin les métiers d'art. C'est que justement, lui, c'est quelqu'un qui a une pratique qui est tout autre et qui se confronte à l'échelle urbaine. Il travaille là sur la canopée des Halles et qui accepte aussi de travailler avec des industries, de s'y confronter. Et ça ne retire rien à sa connaissance du matériau. Donc voilà, c'est des vrais débats qu'il faudrait arriver à réouvrir de façon très calme et très sereine dans le champ des métiers d'art et pas par spécialité. C'est pas parce qu'on est dans les arts de l'habitat. Mais je crois qu'il faut vraiment re-questionner ça en profondeur. Parce que je pense qu'il y a tout à construire. Vraiment, 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 mais pour leur professionnalisme à venir, quoi. Voilà, pardon.
Pour reparler un peu du concept d'art et cité, des arts dans la cité, je pense qu'il y a aussi une notion à peut-être introduire la prochaine fois, où c'est la notion de réemploi. C'est-à-dire qu'on cherche à démocratiser un peu les arts appliqués. Mais d'un autre côté, on travaille sur des matériaux qui sont tellement nobles que jamais ce sera réalisé sur les places publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où le réemploi commence vraiment à prendre de l'importance. Et je pense qu'il faut nous former à ça aussi. Et voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais je pense que... la question que posait Pascal là, sur la place des métiers d'art dans l'espace public est assez vitale. Vous savez sans doute que Gérard Borde, qui est un maître d'art céramiste, a été couronné par le prix Bettencourt pour avoir réalisé un fauteuil en céramique pour la ville de Beyrouth. Et donc, c'est la première fois qu'un maître d'art, je pense, Gérard, à part Emmanuel Barois, se verrier, mais Emmanuel... Lui, c'est comme Gérard Borde, enfin, c'est un processus évolutif. Mais Emmanuel Barois a commencé par être vitrailliste. Et c'est en s'interrogeant sur sa pratique de vitrailliste et son souhait aussi d'aller, comme vous le disiez d'ailleurs, voir l'autre, qu'il a rencontré les architectes. Et avec eux, il a conçu que... Il était ingénieur agronome. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est une... d'abord une hybridation appliquée à lui. Mais quand vous franchissez les frontières et que vous allez, par exemple, dans les Pays-Bas, c'est vrai que les concepteurs créateurs, dirait Pascal, réalisateurs, pardon, oui, c'est important le lexique, hein, ouais, ouais. Réalisent pour les écoles primaires, par exemple, des lavabos pour enfants, ou dans les piscines publiques, réalisent des équipements spécifiques, sur les places publiques aussi. On n'a pas cette culture, nous, de l'implantation, j'allais dire, des objets réalisés par les professionnels des métiers d'art dans l'espace public. Mais c'est un vrai débat. Et c'est un changement de posture. C'est-à-dire quitter l'arrière-salle, son atelier qui souvent siégeait dans les cours des immeubles parisiens. Donc les artisans d'art sont invisibles, sauf quand ils font la révolution dans le faubourg, mais sinon... quitter son atelier, aller dans l'espace public, c'est quand même une démarche forte, à tel point que quand on a demandé à l'école Olivier de Serre, à certains enseignants de participer au concours, leur première réaction, c'était de dire « mais on ne comprend pas. On ne comprend pas comment vous pouvez solliciter des étudiants en arts appliqués à venir s'impliquer dans un projet qui concerne l'espace public. » Donc, et de fait, ils n'ont pas participé. Donc ça, c'était une remarque. La deuxième, par rapport à ce que disait Jacqueline, avec Alain et Gérard, on s'était dit la présence d'un plasticien ou d'un designer, voire des deux, dans le projet, aurait peut-être été nécessaire. Et puis d'autres ont dit non, là, finalement, les étudiants sont très bien passés de designers. Par contre, l'implication d'un plasticien aurait peut-être été intéressante. Ça, c'était un débat qui n'a pas été clos, mais qui... Donc, je ne sais pas, vous, si vous avez senti le besoin d'un designer ou à un moment ou pas. Ou... Voilà, ça, c'est une question.
Je veux dire, là, c'était tout simplement, c'est parce qu'ils étaient dans la posture de designer, c'est tout. Qu'est-ce que c'est qu'un designer ? Un designer, c'est un concepteur qui fait attention, effectivement, à son environnement de vie, à la demande des utilisateurs, etc. C'est un créateur qui est attentif à cela. Quelle a été votre posture, à mon sens, là-dedans ? Ça a été celle-ci. Voilà. Alors, moi, je poserai pas la question comme cela. Je dirais plutôt, effectivement, est-ce que c'est intéressant de savoir... De faire des projets communs où chacun va amener ce qu'il a appris avec lui. Et c'est cela qui m'importerait si demain les écoles supérieures d'art et design participaient à ce concours. C'est tout simplement d'arriver avec des étudiants qui, comme les étudiants de Boulle, de Marne-la-Vallée, j'en oublie, enfin bon, bref, du Perret, etc., etc., et de l'école d'ingénieurs, eh bien, effectivement, vont amener. Leur bagage, effectivement, en tant que créateurs et qui connaissent effectivement certaines techniques, certains procédés, qui travaillent avec certains enseignants, qui ont une certaine culture et qui vont amener tout cela pour faire effectivement que vous allez penser encore mieux, parce qu'il me semble, moi, mais ça c'est une vieille idée que j'ai, que souvent quand on regarde les choses à plusieurs, eh bien on a effectivement une diversité des points de vue et que c'est cela qui nous importe à tous et qu'effectivement le verrier, s'il fait que de la verrerie copie du 18e, ça m'intéresse qu'à moitié. Si par contre, effectivement, parce qu'il a des nouveaux matériaux, parce qu'il regarde autour de lui, parce qu'il travaille avec d'autres, eh bien, il nous invente, il nous crée, il nous conçoit quelque chose de nouveau, alors là, ça commence à m'intéresser. Et voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas pour mettre un designer qui va avoir une place particulière, mais plutôt, effectivement, pour mettre des étudiants en formation, qui ont une formation, effectivement, bah, comme... Alors là, par contre, il y a un processus, effectivement, bac plus 3, puis bac plus 5, avec des méthodes, avec des outils, avec des profs, avec... Voilà, et c'est ça qui est important et intéressant, me semble-t-il.
Merci, Jacqueline. Est-ce que Diana, vous vouliez intervenir
a très, très, très bien parlé, et puis j'adhère à beaucoup à ce que vous avez, vos impressions aussi, la place, l'importance de la collaboration et l'ouverture. Et puis l'artisan tout seul dans son coin, qui c'est plutôt d'aller vers l'extérieur et les autres, je pense, qui est l'avenir.
Excusez-moi, j'avais encore une question. Je voulais savoir si dans le jury, il y avait des élus de la politique de Marne-la-Vallée qui étaient présents.
Oui, oui.
Alors oui, parce qu'on y avait pensé, évidemment. Bien sûr, c'est toujours, les élus sont toujours un peu frileux hein, pour venir dans des jurys, ils n'aiment pas trop. Mais le maire de Champs sur Marne s'y était engagé et finalement c'était sa directrice de l'urbanisme qui était là. Donc ce qui était vraiment très bien. Donc de ce point de vue-là, c'était bien aussi parce que l'idée qu'on avait quand même, hein, c'était pas du tout désintéressé, c'était pas seulement par rapport à l'intérêt d'avoir comme ça le maire dans tout temps. C'était pas ça, c'est que si effectivement on réalisait quelque chose, on était quand même un peu obligé de passer sous les fourches codines de la mairie qui donnait les autorisations. Donc bon, c'est-à-dire que parce que sur ce projet-là, ce qui était important, après ça marche ou ça marche pas, mais c'est un peu ce que vous disiez, c'est de se mettre quand même en capacité ou en situation de pouvoir le réaliser. Après, ça se fait pas, ça dépend pas de nous, enfin ça dépend pas directement du projet. Mais c'était simplement un moment que le maire puisse dire, à travers sa directrice de l'urbanisme, finalement c'est bien ce qu'ils ont fait, ça mériterait d'être accompagné, comme on l'a fait pour Epamarne. Il y avait aussi donc un architecte qui était dans le jury. Enfin, il y avait deux architectes, mais il y en avait un plus particulièrement parce que lui, il travaillait au sein de l'Epamarne. Donc du coup, c'est pareil. Il avait à la fois les financements de quelqu'un qui avait les autorisations, l'autre avait les financements. Le principal, c'est que tout le monde était animé de la même envie de voir réaliser le travail. Quoi. Voilà. C'était ça. Donc oui, il y avait d'une certaine manière un élu.
Alors pour répondre aux deux questions là, qui ont été posées sur est-ce qu'un des projets va être réalisé, on a fait une réunion avec l'équipe d'enseignants référents hein, pour faire le bilan. Il y avait Anne Berton aussi qui est venue à la remise des prix. Et Anne Berton, qui est la directrice de cabinet du président de l'université, je crois Alain, nous a dit qu'elle ferait tout pour que l'un des projets soit réalisé. Et il semblerait, mais ça, que le projet numéro 2 recueille plus l'intérêt de ceux qui aménageraient et financeraient. Je parle au grand conditionnel. Hein. Donc ça, c'est une réponse à votre question. Donc on va suivre, nous, peut-être avec l'aide d'Alain, pour tout faire pour que ça soit réalisé. La suite, elle peut se faire dans deux directions. La première, c'est les directeurs d'école dans les régions qui, informés de ce concours, y ont trouvé un intérêt réel et vont peut-être le faire à leur manière dans leur région. Je pense notamment à la Bretagne, mais peut-être pas seulement. Et le concours national, on se disait qu'un concours biennal nous permettrait, nous, de rassembler le financement, parce que vous avez aussi senti que pendant la réalisation du concours, l'intendance n'était pas forcément au top, même si Ivan Azovko, Constance Meunier, Rosemary Tostivin, puis Muriel Prouet, donc ça fait quatre qui se sont succédés, ont fait vraiment tout leur possible et plus que leur possible pour faciliter les choses. Il n'empêche que nous avons conscience qu'en termes de coordination et de facilitation, notamment pour tout ce qui est fourniture, lieu de réunion, enfin bon, il a sans doute manqué, mais ça vous nous le confirmerez, quelque chose dans l'organisation. Voilà. Donc c'est avec tout ce bilan qu'on se relancerait dans un concours qui commencerait donc en décembre 2015. Après, plusieurs d'entre vous ont posé la question de valoriser. C'était un concours. La valorisation, c'était quand même le prix qui était quand même conséquent. 1 000 euros par étudiant pour l'équipe gagnante, ce qui pose aussi le problème des autres équipes hein, qui ont réalisé. Certains nous disaient, mais le fait que le projet soit réalisé, c'est aussi peut-être déjà et mieux une récompense que de l'argent. Beaucoup plus. D'autres nous disaient on aurait aimé que ce travail en commun soit beaucoup plus intégré dans notre cursus pédagogique. Or, on a eu l'impression de faire ça un peu hors tout. Même si dans 15 ans, je pense qu'une des expériences dont vous vous rappellerez dans votre parcours professionnel, ce sera celle-là. Croyez-moi. Ça sera quand même un temps fort. Oui, mais quand même, Alain.
Juste une remarque, vous parlez de décembre 2015. Et là, je dis, attention, les équipes pédagogiques, elles se mettent en place en septembre. Et quand on n'a pas les projets en septembre, on n'est pas très bon dans nos écoles. Hein, j'ai remarqué ça.
C'est vrai, Jacqueline, vous avez raison. Je pense qu'il faut qu'on ait, si on décide de le faire, dès juin 2014, une proposition à faire aux directeurs d'école et aux enseignants. Après, c'est l'objet même. Là, on a eu l'opportunité de Marne-la-Vallée, hein, grâce à Alain. C'était un projet a priori surprenant, mais qui finalement a fait sortir chacun de sa posture. Hein. Donc, c'était positif. Il faut qu'on trouve un autre projet. Hein, c'est pas... Bon, ça se trouve, hein, mais il faut l'élaborer quand même.
Donc, on va peut-être conclure, là. Bah, pour conclure, moi d'abord, j'aimerais peut-être finalement, on a parlé beaucoup de collaboration entre les étudiants, mais je voudrais élargir la collaboration. Puis je pense que Alain va se joindre à moi pour dire merci vraiment. Je voudrais parce que d'abord, voilà, c'est un peu le bébé qui a réussi. Je voudrais d'abord remercier l'INMA en la personne de Pascal Leclerc qui a tout de suite adhéré à ce projet à réciter et qui a motivé ses troupes. Hein. Bon, elle n'est pas là ce soir, mais je adresse un grand merci à Ivana qui s'est occupée des premières mobilisations également. Ensuite, Constance Meunier qui a repris le flambeau. Ensuite, Muriel. Et puis, je crois que Rosemary t'a fait un petit passage aussi. Donc vraiment, puis tous les enseignants qui ont joué le jeu, il y avait une prise de risque également. Les étudiants qui ont accepté. Moi, je sais qu'au départ, c'était pas facile. Moi, quand j'en ai parlé à mes étudiants de gravure, ils m'ont dit, nous, on est des gens de l'image, qu'est-ce qu'on va aller faire là-dedans? Puis finalement, ils sont venus. Et les relieurs, on parlait Alain, tu parlais des relieurs, mais il y avait une relieuse dans l'équipe gagnante et qui, je pense, était très bien comportée. Donc, remercier tous ceux, voilà, tous ceux qui ont bien voulu, voilà, tenter l'expérience, c'était pas évident, fallait convaincre. Hein. Moi, je voyais à Estienne, par exemple, on n'a pas trouvé de prof référent. Moi, il s'avérait que j'enseignais à Estienne, donc j'ai fait le référent, mais il y a eu très peu de gens pour accepter de sortir, en effet. Et d'ailleurs, le jour de la remise des diplômes, moi, ce que j'ai entendu de la part des chefs d'établissement, c'est-à-dire, ils nous ont dit, mais vous avez réussi à faire entre les écoles ce qu'on n'arrive pas, nous, à faire dans notre propre école. Et ça, c'était quand même très significatif. Bon, j'espère en effet que, voilà, on a semé, que ça pourra. Et Pascal a évoqué toutes les contraintes, surtout les contraintes économiques. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Je sais qu'on a fait bouger des lignes. J'espère qu'elles vont continuer à bouger et qu'il y aura un prolongement à tout ça. Ben, merci à tous d'être venus. Et puis, Sébastien, prochaine, je te passe le relais pour la suite.
Juste avant donc de vous laisser, pour vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 21 janvier. Ce sera toujours sur cette idée de collaboration, les processus collaboratifs. On abordera notamment le phénomène du slow-made et une expérience, l'abat-jour, donc, qui avait été menée l'an dernier. Donc voilà, on abordera tout ça le 21 janvier. Merci, bonne soirée. Thank you.
J'ai pas un ego, moi, assez développé.
Serge Genève.